Et puis le soir du mariage, elles étaient introduites dans la pièce que le mari avait préparée. La femme entrait, donc la mariée, le soir des noces, entrait avec ce vase albâtre et le cassait, s'en mettait dessus, on mettait sur les lits, sur les habits, sur les rideaux. Et puis ainsi, le moment de l'époux et de l'épouse dans leur intimité avait lieu. Cette idée est très belle parce que cette femme qui rentre vers Jésus, en fait, elle est en train de faire une chose incroyable. Dans l'évangile de Marc, c'est 2 jours avant la crucifixion. Et les gens autour de Jésus sont scandalisés parce que ce vase d'albâtre et ce nard, il y en a pour 300 cycles. J'ai lu que 300 cycles, ça correspond à une année de travail. Un cycle, c'est le salaire d'un jour. 300 jours, ça fait à peu près une année. C'est énorme. Cette femme, elle brise non seulement cette somme considérable pour oindre Jésus, mais en plus, elle brise ce qui lui appartient en tant qu'épouse. Est-ce que vous voyez déjà venir l'époux et l'épouse, prophétiquement ? Jésus, dans l'évangile de Marc, à trois reprises, il dit qu'il va mourir, qu'il va être crucifié et qu'il va ressusciter le troisième jour. Étonnamment, les disciples, ça ne rentrait pas. Hein. Mais ça ne rentre vraiment pas, je peux peut-être les comprendre. Ils se sont dit, c'est une image, c'est un symbole, c'est peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais ils ne comprennent pas. Ils sont interdits. Est-ce que cette femme aurait déjà reçu ça ? Est-ce que cette femme aurait peut-être reçu déjà cette pensée que Jésus va vraiment mourir ? D'ailleurs, Jésus dit, mais laissez-la faire. Laissez-la faire. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Ce parfum ne sera pas vendu pour les pauvres. Non, il est pour moi, il est pour ma sépulture. Extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que c'est pour moi la meilleure image qu'on puisse avoir de l'adoration. Parce que cette femme joue avec son corps, elle joue avec son âme, avec son esprit, avec son être entier. Elle va au-delà de la raison, elle va au-delà du porte-monnaie, elle va au-delà des conventions sociales, et elle affronte les hommes, les regards, elle va vers Jésus, droit vers Jésus, le Fils de Dieu, et puis lui verse l'entièreté de ce parfum, son prix. L'adoration. Robin, ah non, c'est bon. Dans le psaume 141, il y a ce verset qui dit « Que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Donc on voit que dans l'Ancien Testament déjà, l'encens était vraiment une image de la prière qui montait à Dieu. Il faut savoir que dans la Bible, on voit que Dieu, depuis le début, cherche à entrer en relation avec l'homme, et le rapport de l'homme à Dieu, c'est l'adoration, c'est tout naturel. Quand tu es en face de Dieu, quand tu te rends compte qui est Dieu, je pense à Job par exemple, qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil te voit », quand Job est au contact de Dieu, les choses changent, les catégories changent, tout change, c'est un changement de paradigme dans ta vie, tout ton système de pensée s'écroule à terre parce qu'il y a Dieu. Puis quand il y a Dieu, c'est autre chose que tout ce que tu as imaginé de Dieu, tout ce qu'on croit savoir de Dieu. Et là, dans cette réalité extraordinaire, eh bien, Dieu va se révéler, cherche à se faire connaître des siens. Et le rapport naturel d'un homme à Dieu, c'est l'adoration. Alors, on voit dans le jardin d'Éden, par exemple, que l'homme est dans le jardin et il parle. Il est là avec la femme et l'homme. On voit que dans Israël, quand ils sortent de l'Égypte, Dieu se révèle dans la nuée. On voit que lorsque Dieu met en place pour Israël le service, pour qu'il y ait un lieu, pour que les gens sachent s'orienter vers un lieu pour l'adorer, pour se tourner vers où, vers qui. Mais ce lieu-là, ça sera le tabernacle. Et puis plus tard, quand ils seront installés en Canaan, ça sera le temple. Et plus tard encore, ce sera Jésus, parce que c'est Jésus le tabernacle. Et puis enfin, l'Église. Et enfin, toi, dans ton cœur, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu cherche à habiter au milieu de nous. Alors prenons ici un exemple de l'Ancien Testament qui nous est donné. Et cet exemple-là, c'est précisément le tabernacle. Il se présentait d'une façon assez particulière, il y avait comme un enclos, si on veut bien, et puis quand tu rentrais dans le tabernacle, d'abord cet endroit qu'on appelle les parvis extérieurs, il y avait tout de suite devant toi un autel qui était dressé là pour sacrifier des animaux. Tu venais, entre autres, parce que ça serait long d'expliquer ce qui s'y passait, tu venais avec un animal, mettais ta main sur l'animal, on tuait l'animal, l'animal mourait pour toi à ta place. Pourquoi ? Pour que Dieu voie plus ton péché, mais voie dans le sang de l'animal une justice que Dieu avait demandée. Tu n'étais plus toi le coupable, c'est l'animal qui avait pris sur lui le châtiment qui t'était réservé. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas regardé ça? Mais simplement parce que Dieu voyait dans cet acte-là déjà un jour Jésus, l'homme parfait. On l'a chanté ce matin à la croix. Donc la première chose que l'on voit, que l'on vit lorsqu'on se convertit, c'est ce Dieu qui s'est mis devant moi, en place, qui m'accueille les bras ouverts et qui meurt pour moi. Le sacrifice. Tu commences par ça dans ton expérience avec Dieu. Le tabernacle. Et puis ensuite, on avance un peu plus loin, et on arrive dans ce lieu qui est un lieu fermé, c'est le lieu saint. Alors évidemment, avec tous les rideaux qu'il y avait devant, normalement il fait sombre dans le lieu saint, mais on avait un chandelier qui s'appelle la menorah avec cette branche. C'est une image que tu rentres maintenant, tu as connu le sacrifice de Jésus pour toi, tu as été touché par cela, tu comprends que le sang de Jésus, c'est indispensable, tu ne seras jamais trouvé juste devant Dieu si tu n'as pas passé par cette case-là. Mais après, il faut entrer dans le lien avec Dieu. Et pour entrer dans le lien avec Dieu, il y a encore du chemin à faire. Et là, quand tu vas faire du chemin, tu as besoin du Saint-Esprit pour t'expliquer ce que Dieu veut de toi. Parce qu'avec tes réflexes naturels, ça ne comprend pas. Tu peux comprendre la croix, tu peux saisir des choses, mais tu ne vas pas comprendre ce que Dieu veut de toi si tu n'écoutes pas sa révélation pour toi. Donc il faut entrer dans ce lieu où il y a cette menorah qui éclaire artificiellement. Artificiellement, c'est une image du Saint-Esprit. C'est une nouvelle dimension, si tu veux bien. Et en face, cette table des pains de proposition qui montre cette nourriture, c'est-à-dire cette parole qui te nourrit. Que vas-tu faire si tu n'es pas nourri de la parole de Dieu, si Dieu ne te parle pas? Moi, quand je prie pour mes enfants, quand je prie pour mes amis, pour les gens qui m'entourent, je demande toujours deux choses. Je demande que Dieu les protège, qu'il les protège de toute façon, et puis qu'il les nourrisse. Pour moi, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de prier pour moi pour que je reçoive la parole de Dieu. Qu'elle soit par son texte, qu'elle soit par une parole directe de quelqu'un, par un événement, c'est égal. Mais pour moi, mon plus grand désir sur mon cœur, c'est vraiment la parole de Dieu. Et puis, tout au bout, si vous regardez bien, on a ce meuble, on va dire comme ça, ce mobilier. Et ce meuble, c'est l'autel des parfums. C'est très intéressant de voir que l'autel des parfums, ou l'autel d'or, comme on l'appelait aussi, il est placé juste devant le rideau, c'est-à-dire juste derrière le lieu où Dieu se trouve, symboliquement, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance, juste derrière. Donc cet endroit-là est d'autant plus important que dans Exode 30, c'est dit que Dieu se tiendra là, il a rendez-vous avec toi à l'endroit où se trouve cet autel d'or. C'est l'autel des prières. Dieu va se trouver là, à l'autel des prières. On va regarder d'un peu plus près. Merci Robin, super. On va regarder d'un peu plus près cet élément. La première chose qui est intéressante avec cet autel, dans Exode 30, verset 6, c'est noté, « On déposera cet autel devant le rideau qui cache l'arche de l'Alliance, là où je te donnerai rendez-vous. » Donc, il faut bien comprendre que Dieu se trouve au milieu des louanges. On le chante, on le dit souvent, et c'est bien de le dire, de le rappeler. Quand tu commences à louer Dieu avec tes frères et tes sœurs, tu rentres donc d'une dimension qui est nouvelle, quelque chose qui te dépasse, qui va au-delà. Et tu rentres vraiment dans cette relation avec Dieu, et Dieu se plaît là, à cet endroit-là. Et j'aimerais, avec toi ce matin, partager quelques idées, simplement, sur ce parfum qui monte. On va regarder de plus près ce meuble particulier, cet autel d'or. J'ai trouvé intéressant que cet autel d'or est fait de deux matières. À la base, il est fait en bois d'acacia. Et puis sur le bois d'acacia, on a mis de l'or, il est couvert d'or. La Bible nous dit, à un moment donné, que cet autel d'or représente aussi Jésus lui-même. Alors on se dit, mais attends, Jésus, il est dehors à la croix. Oui, mais il est à la croix parce qu'il est en train de donner sa vie. Et puis, il y a un lien entre l'autel d'extérieur et l'autel intérieur. Quel est ce lien? Ce lien, c'est que l'autel extérieur, le sang qui est versé pour ta justification, pour te sauver, une fois par année, le sacrificateur prenait le sang de la victime et venait mettre le sang sur les cornes de l'autel ici, celui-ci. Donc il y avait un lien déjà. Le sacrifice était avant, et puis après, on va pouvoir louer Dieu et adorer Dieu sur la base du sacrifice accompli à l'extérieur. Et cet autel-là, on dit aussi dans la parole qu'il représente Jésus. Pourquoi ? Jésus dit de lui-même, c'est dans Luc 23 que j'ai trouvé ce verset, il dit, qu'est-ce qu'on fera au bois vert, avec ce qu'ils font au bois vert maintenant, que feront-ils au bois mort? C'est quand Jésus va être crucifié. Lui, Jésus, s'identifie à ce bois. Le bois d'acacia qu'on trouvait en Israël, c'était un arbre très résistant, qui ne moisissait pas, qui résistait à la moisissure, qui résistait aux intempéries. Un bois dont on tire, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, la gomme arabique, avec ça on fait des médicaments, avec ça on fait des parfums. C'est un bois, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un bois incroyable parce qu'on peut en tirer énormément de substances utiles pour la pharmacie, pour la guérison et pour d'autres choses. Il y a aussi cette image de cet arbre très grand, vous savez, quand Jésus il parle des oiseaux du ciel qui iront s'abriter dans ses branches. Jésus s'identifie à ce bois. Mais pourquoi ? Mais parce que Jésus est homme. Ce bois, il vient de la terre, c'est une graine de la terre qui a poussé dans la terre, qui a ses racines dans la terre, comme toi, comme moi. Donc Jésus est homme, mais il est aussi Dieu. Alors il y a l'or par-dessus. Quand l'or, tu le fais fondre, qu'est-ce qui reste de l'or ? Quand le bois, tu le cuis, le rôtis, le mets au feu, il ne reste plus rien. Il reste des cendres. Mais l'or reste. Jésus est les deux. Il est homme et Dieu. Et Jésus est cet autel d'or parce qu'il intercède pour toi, il intercède pour moi. Alors quelques pensées sur le parfum et l'adoration. On revient maintenant à nous les adorateurs. Quand tu adores, eh bien ta prière authentique et sincère, elle est une bonne odeur pour Dieu. C'est important de le savoir, c'est important de le croire. Et tu connais probablement ce verset qui dit que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ensuite, il faut savoir aussi que fabriquer du parfum selon les commandements de l'Exode, la révélation de Dieu, ça demande du temps, la préparation et un protocole. C'est pas n'importe quel parfum que tu vas fabriquer. C'est comme si Dieu te dit, écoute, je veux bien que tu m'adores, mais je vais t'expliquer comment tu vas faire. Si tu veux que je sois honoré par ton adoration, fais pas n'importe quoi. Dis pas n'importe quoi. Laisse-toi diriger. Je recevrai ta prière. Alors bien sûr qu'on n'est pas tous des experts dans l'adoration, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu nous montre un chemin pour l'honorer et de l'obéissance, on entre dans ce chemin-là et on arrive à entrer en vraiment communication avec Dieu, à l'écoute de ce qu'il nous dit. Éphémère, parce que ça dure un temps ce parfum. Quand tu y mets le feu, ça va durer un certain temps. L'adoration va produire quelque chose un certain temps et puis tu vas recommencer. Dans le temple et dans le tabernacle, c'était matin et soir, tous les jours. Et dans la parole, c'est marqué que tu feras ça devant ma face à l'infini pour l'éternité. L'adoration ne cesse pas. Ensuite, il y a la notion derrière du cadeau qui coûte cher. Quand tu offres à Dieu ta louange de tout ton cœur, c'est un cadeau qui te coûte quelque chose. Alors on reprend l'histoire de cette femme, vous l'avez compris. Mais aussi toi, ça te coûte. Peut-être que dimanche prochain, certains, ils n'ont pas vraiment envie de venir le soir. Il faut redescendre d'Arzier, ça fait un bout. Il y a de la neige, il faut peler la neige d'abord pour sortir sa voiture. Hein, ma femme. C'est moi qui pèle la neige. Donc, après j'aurai le droit à une remarque. Si vous voulez, il y a un inconfort peut-être. Je dis peut-être. Il y a des gens qui courent pour louer Dieu, ils aiment ça. C'est de seconde nature en eux, c'est génial. Mais d'autres, pas forcément. Donc, il y a quelque chose qui va te demander de te dépasser dans ton confort. Et puis tu vas offrir ce cadeau à Dieu qui coûte un certain prix. Il y a aussi cette idée que ça doit être préparé. On se prépare. Donc ça te demande une discipline, ça te demande un don de toi-même. Moi je me rappelle chaque fois que je prépare la louange, quand je suis au piano, quand je suis avec vous pour louer Dieu, quand les premières notes démarrent, il se passe quelque chose. Mais avant, il faut préparer. Avant, il faut téléphoner. Avant, il faut chercher les gens. Il faut se mettre d'accord. Il faut répéter. Ça demande du travail. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que vous voyez les gens ici, ça semble sortir comme ça de soi. Ça ne vient pas de soi. C'est toujours du travail. C'est un service. Et puis, une autre pensée aussi qui est assez belle, c'est le verbe brûler. Aaron fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Alors moi, j'aime bien l'idée du feu, parce que ta poudre est prête, selon ce que Dieu a demandé. Tes paroles sont prêtes, tu as le sujet pour dire à Dieu, mais tu sais que certains matins, tu viens devant l'Éternel Puis en fait, tu dis des choses, mais ton cœur n'y est pas, non? Vous connaissez ça? Moi, je connais ça souvent. Mes pensées sont ailleurs, puis tu chantes des choses, mais tu réfléchis pas à ce que tu dis, quoi. Tu n'es pas en train de dire quelque chose à Dieu. C'est comme si tu lis un message à ta bien-aimée, eh ben moi, à mon épouse, et puis je pense pas à ce que je dis. Elles sont tout de suite. Hein. Elles sont tout de suite. Le chéri, je t'aime, mais en fait, j'y pense pas. Vous savez, elle sait. C'est pas les radars en elle, c'est un instinct, c'est une seconde nature aussi. Alors, j'ai intérêt à être absolument juste, droit et cohérent dans ces moments-là. Mais quand tu es devant Dieu, c'est la même chose. Quand tu es devant Dieu, tu ne vas pas devant Dieu dire des choses comme des paroles magiques ou des paroles, je ne sais pas, incantatoires. Quand tu as dit ça, tu as fait ton boulot, mais pas du tout. On est dans une relation d'amour. On est en relation avec Dieu. On n'est pas dans la religion. Brûler, c'est prendre les braises qui sont sur l'autel à l'extérieur. C'est ce qu'ils faisaient les sacrificateurs. Ils prenaient les braises et les amenaient dans le lieu saint. Et là, il brûlait l'encens. Si tu ne brûles pas l'encens, il n'y a pas l'odeur. Donc si ton feu ne brûle pas parce qu'il y a l'amour du Christ qui est en toi pour ce qu'il a fait pour toi, les paroles n'ont pas de sens. Tes efforts sont vains. Tu as parlé pour rien. Tu aurais pu rester chez toi et peler la neige. J'aime bien l'idée aussi dans le parfum, le côté désintéressé. Le côté complètement désintéressé. Parce que ce que tu donnes, tu ne le retrouves pas. Quand c'est brûlé, ce sont des cendres qui restent. Donc, Dieu aime ce geste désintéressé. On nous donne souvent un message lorsqu'il y a le jour où on fait les dons pour l'Église. Eh bien, tu le fais de tout ton cœur. Tu peux donner des quantités plus ou moins grandes, mais fais-le de façon désintéressée, mais par amour. C'est aussi de l'adoration. Et puis, un jour que je donnais ce message dans une communauté, un homme est venu vers moi pour me dire que les cendres qui restent, on peut les réutiliser, en fait. Alors, j'ai téléphoné à Pierre-André Gallet hier soir, pour être sûr que je ne disais pas de bêtises. Il m'a dit, non, t'en mets pas trop, hein, il m'a dit. Mais tu prends les cendres, t'en mets autour des arbres fruitiers, t'en mets sous ton gazon, ça fertilise, c'est bon. Il y a du potassium, puis je ne sais plus quoi. Mais enfin, c'est très bon. Mais n'en mets pas trop, n'abuse pas. Donc, il y a de nouveau, tu vas adorer Dieu, tu vas vivre quelque chose de fort, tu crois qu'il ne reste plus rien, mais il y a une bénédiction derrière qui reste pour fertiliser ton cœur. Et j'aime bien cette pensée. Une autre pensée encore, et ce sera la dernière par rapport à l'adoration. C'est marqué dans Exode 30, tu feras un parfum composé selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et saint. Salé, pur et saint. Le sel, c'est pour conserver. Hein. Pur, la pureté, un parfum selon ce que Dieu a demandé, pas autrement. Dieu dit, tu ne mettras pas de parfum étranger dans mon lieu saint. Il y a les deux fils d'Aaron qui meurent pour avoir fait ça. Ils ont amené un feu étranger, ils meurent à cet endroit-là. Donc il y a un jugement qui est prononcé sur celui qui fait n'importe quoi spirituellement devant Dieu. Un jugement. Ça peut être physiquement ou spirituellement. Donc, attention. Salé, pur et saint, m'a fait simplement penser à ce que nous sommes, nous, parce que quand tu viens devant Dieu comme adorateur, tu es considéré toi aussi comme une bonne odeur devant Dieu, tu vois. Donc, tu es dans tout ton être, en trois personnes, corps, âme, esprit, c'est ça l'idée qui venait derrière, corps, âme, esprit, engagé devant Dieu. C'est de toute ta personne, de tout ton être, que tu vas exprimer à Dieu ta louange. Je me rappelle, et peut-être certains parmi vous se rappellent, quand Lynn Blatter dansait dans la salle parfois, ou avec sa flûte traversière, lorsqu'on louait Dieu, traversait la salle, revenait, etc. Le corps, l'âme, l'esprit, il y avait tout qui était en jeu. Cette liberté qu'elle avait, qui choquait personne, qui était tellement belle, parce qu'elle exprimait de façon fort simple, mais fort touchante. Cet été, j'étais à Jeunesse en Mission pour un séminaire, et puis voilà qu'à un moment donné, pendant un temps de louange, une femme sort du cercle, et puis va chercher le premier foulard qui lui tombe sur la main, et commence à faire des mouvements, comme on fait avec les drapeaux dans l'adoration. Et quand je voyais cette femme-là, j'étais très touché, quoi. Parce qu'il y avait l'adoration. Vous savez, quand la femme vient verser le parfum sur la tête de Jésus, elle dit rien. Elle dit rien du tout. Il n'y a pas un mot qui est prononcé. Donc il y a peut-être dimanche prochain des gens qui viendront nous rejoindre, qui ne sont pas, je dirais, des chanteurs, qui ne sont pas touchés par le chant, mais qui sont quand même là, et qui diront rien, mais qui vont par leur seule présence provoquer quelque chose d'extraordinaire dans la communion que nous aurons ensemble. Donc, il y a toutes sortes de manières d'adorer. mais adore de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Vous êtes patient, moi aussi. Voilà, ça y est. Ce qui demande quand même une responsabilité, quand ton corps, ton cœur, ton esprit, tu vas au-devant de Dieu, il y a une responsabilité, c'est celle de ne pas faire les choses n'importe comment. Il faut te sanctifier. Il faut passer par les vraies étapes. La première étape, évidemment, c'est celle de la croix. Alors, j'ai noté quelques pensées encore. Quelques pensées, c'était celle des cendres, sauf erreur. Quatre conditions pour être un parfum agréable. La première condition, ben, simplement, c'est d'avoir la foi. Si tu viens sans la foi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais ça par habitude, par culture, parce que tu as poussé entre deux pages de Bible. Ça n'a pas de sens. Tu crois que Dieu est là. Tu crois que tu es tout près du tabernacle, que c'est le lieu, l'objet, le fonctionnement le plus proche de la présence de Dieu. Tu crois cela ? Alors c'est bien. Il faut la foi. Et puis il y a une deuxième chose dont tu as besoin, c'est l'obéissance. Fais pas ce que tu veux, toi. Écoute ce que Dieu te demande. Alors Dieu sera honoré par ta adoration, par ta louange. Une troisième chose, ben c'est l'amour. Il y a trois choses. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus importante, c'est l'amour. On est d'accord ? Donc, quand tu viens comme cette femme qui revient vers Jésus, elle déborde d'amour pour lui. Elle déborde, il n'y a plus de mots. Donc, ne parle pas, aime. Laisse parler ton cœur et ta passion. Mais le plus important, mes amis, pour moi, c'est ça. C'est par Jésus que tu fais ça. Parce que c'est lui qui te donne, au fond, à quelque part, le sacrifice. C'est lui qui te donne les éléments pour parler à Dieu. Ce matin, on a parlé de Jésus, on a parlé de son sacrifice. On a commencé par dire que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est juste, mais on a continué par dire Jésus. Qu'est-ce que tu as fait parmi nous ? Qu'est-ce que tu es dans mon cœur ? Qu'est-ce que ça construit ? Mais tu me donnes une liberté incroyable. Tu me donnes la capacité d'avoir de l'autorité sur le monde spirituel. Tu me donnes la capacité de sortir de situations invraisemblables. Tu me parles. Jésus. Et si Jésus n'était pas venu comme sacrifice, nous n'en serions pas là. Alors, dans l'Apocalypse, il y a ce verset très connu, où vous vous rappelez, les anciens se mettent à terre et prient. Et j'aimerais, avec vous, avec toi, avec ceux qui sont d'accord de prier avec moi, dire les paroles qui vont suivre. Ceux qui veulent simplement écouter peuvent écouter, les autres, on va les lire ensemble. Et on va dire ces paroles que Jésus a mis dans notre bouche, que l'Esprit-Saint a mis dans notre bouche. Puis on va les prier à Dieu maintenant, c'est très court, on va les dire ensemble. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez ce que je vois là ? Je vois de la fumée qui monte. J'ai pas fait exprès. Hein. Bon, ça fait quand même 2-3 semaines que je suis sur le sujet, mais quand on prie ensemble, c'est tellement beau, c'est tellement glorieux, et cette fumée qui monte, et Dieu a du plaisir. Et Dieu a du plaisir. Alors, vous êtes devenu du parfum en faisant cela. Alors, Paul, il dit simplement ce verset dans 2 Corinthiens 2,15, « Par nous, Dieu fait connaître le Christ en tout lieu comme un parfum dont l'odeur se répand partout. » Vous êtes du parfum qui se répand partout. « Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. » Terminons maintenant. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et voici, tu seras muet. Ça, c'est le chapitre 1, mes amis. Vous savez ce qui est au chapitre 29 ? Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. La parenthèse du milieu, c'est Jésus qui se donne pour nous. Amen.